Actu SF, les podcasts.
Alors bonsoir à tous. Donc vous êtes aujourd'hui avec nous là pour la conférence Roman Young Adult, plaisir de lire, la collection Big Bang, donc la nouvelle collection chez Bragelonne. Donc à ma droite j'ai Gabriel Katz pour Le Serment de l'Orage. Et à côté, Chloé Jo Bertrand pour Apocalypse Blues. Merci. Je commence par une question cruciale. Chloé Bertrand ou Chloé Jo Bertrand ?
Chloé Jo Bertrand, s'il vous plaît. Ça marche.
Alors, donc, vos deux textes inaugurent la nouvelle collection de Bragelonne qui s'appelle Big Bang et qui a été lancée le 10 avril 2019. Qu'est-ce que ça représente du coup pour vous d'être, de faire partie de cette nouvelle collection et d'en être les premiers auteurs ?
Alors, est-ce qu'on m'entend déjà ? J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas.
Si, Gabriel, même si je parle comme ça, on m'entend. En fait, c'est pareil.
OK. Qu'est-ce que ça représente pour moi ? En fait, c'est pas un saut dans l'inconnu, mais c'est un nouveau public. Alors, le young adult, a priori, c'est un truc que je n'aurais jamais cru fréquenter un jour, parce que je me suis dit, j'écris résolument pour des adultes. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que dans mon public, il y avait énormément de jeunes adultes, donc d'ados. Quand j'étais ado, il y a 150 000 ans, il n'y avait pas tellement de distinction young adult-adulte, on lisait à peu près ce qu'on voulait. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a une possibilité en fait, de transmettre à un public young adult qui est quand même dédié à un rayon young adult qui est dans les librairies, une forme de littérature qui est a priori réservée aux adultes. Donc, très honnêtement, je ne change pas beaucoup ma plume. Je change un petit peu de crèmerie plus que de plume, parce que les gamins, ils ont lu ce que j'écrivais par ailleurs, ils l'ont aimé. C'est pas d'une violence terrifiante non plus, parce que c'est aussi, il y a des gamins de 13 ans qui vont lire ça, mais c'est vraiment fait pour donner à un public young adulte une espèce d'avant-goût de ce qu'ils vont lire plus tard et même de ce qu'ils pourraient lire maintenant.
Dans mon cas, c'est plus particulier parce que certains d'entre vous le savent peut-être, Apocalypse Blues, il est paru une première fois chez Bragelonne sous le titre Il nous reste le ciel. Et à la base, il est paru dans des collections qui n'étaient pas nécessairement young adult. Enfin, c'était un peu des collections qui n'avaient pas vraiment de... Enfin, Snark, c'était une collection avant tout primo numérique. Et après, il est passé chez Bragelonne, toujours en primo numérique. Mais dans les deux cas, c'était des collections qui étaient plus dédiées aux adultes qu'aux jeunes adultes. Même s'il y a toujours eu des jeunes adultes qui lisaient des livres de l'imaginaire pour adultes, comme Gabriel l'a si justement fait remarquer. Donc du coup, le roman n'a pas tellement changé. On a juste fait un petit peu de travail de texte, mais... pas vraiment pour l'adapter, on n'a rien changé dedans en fait, à part modifier une virgule par-ci par-là. Donc au final, je ne l'ai pas spécialement écrit pour du young adult. Après, c'est vrai que les romans que j'écris, de manière générale, ils ont souvent des personnages qui sont assez jeunes. Et c'est pour moi l'alarme.
Non, c'est pénible, mais on vous
d'accord. Mais donc du coup, ça, c'est vrai que ça correspond souvent à du young adult, mais après, le young adult, de toute façon, c'est une espèce de limite un peu floue entre deux mondes. Souvent, j'ai toujours vendu ce livre aux mêmes personnes, quelle que soit la collection dans laquelle il était, c'est-à-dire des adultes, certains qui étaient effectivement jeunes et d'autres qui n'étaient pas spécialement jeunes. Et c'est toujours le cas. Donc du coup, ça n'a pas changé grand-chose au final, au niveau du public en tout cas.
Alors, sur le Facebook de Bragelonne, le 11 mars, il y avait cette profession de foi qui a été citée, qui a été exposée pour présenter la collection Big Bang. Donc, je cite, « Ils voulaient publier des titres qui ne rentraient dans aucune case, trop sérieux, trop durs pour la jeunesse, mais avec des héros trop jeunes et des problématiques trop différentes pour la littérature adulte. Aujourd'hui, cette case existe et elle s'appelle le Young Adult. Alors, les livres qu'on gardait bien au chaud, on a décidé que c'était le moment parfait pour les publier. » Accrochez votre ceinture, parce qu'en 19 ans de réflexion, ce qu'on vous a trouvé est explosif. Alors, est-ce que vous trouvez que vos textes sont explosifs ?
Alors, l'auteur qui dit que son texte est explosif, franchement, il faut le pendre. Donc, c'est pas l'auteur de le dire, honnêtement, il faut le lire pour voir. Pour être franc, j'ai eu peur au départ que le Serment de l'Orage soit un petit peu brutal pour des ados. Et après, j'ai regardé ce que les ados lisent, et je me suis dit non, en fait, non. Non, c'est-à-dire que bon, ils sont passés par Hunger Games, ils vont pouvoir lire Le Serment de l'Orage, c'est pas le drame de leur vie. Alors après, le vrai test, ça va être maintenant. C'est-à-dire que si, à partir de maintenant, il y a une vague épouvantable de suicides ou tout ça, ce sera ma faute et donc ce sera raté. Mais non, honnêtement, je crois que ça passera comme ça. Alors franchement, que ce soit explosif ou pas, c'est les premiers tours. Pour l'instant, ils sont pas mauvais. Sauf que comme en fait, je paye le public pour qu'il donne des bons avis, c'est pas tellement gérable. Donc c'est à Chloé de dire, en fait.
Merci pour la responsabilité que tu me mets sur les épaules, c'est super sympa. Après non, encore, enfin moi non plus, je vais pas aller dire qu'il est explosif parce que j'ai pas envie qu'on me pende. voilà. Mais après, je me retrouve beaucoup dans ce que la partie de la profession de foi que tu as citée, notamment la partie sur le fait que c'était à la fois trop dur quelque part pour des jeunes, mais en même temps avec des mots trop jeunes quelque part pour qu'on dise que c'est pour les adultes. Parce que en fait, je trouve que ça reflète beaucoup la réalité du monde d'aujourd'hui. Je vais dire des trucs qui vont vous sembler pessimistes, mais je vous promets que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que je trouve que le monde devient de plus en plus, pas forcément noir, mais disons qu'on a de plus en plus accès facilement, ne serait-ce que par les informations, aux aspects les plus noirs du monde. Et les jeunes sont confrontés à ça de plus en plus jeunes. Genre, je le vois, moi, par exemple, avec ma nièce de 11 ans qui est désespérée par l'état de la planète de manière extrêmement réaliste. J'aurais dit pas juste ça pour être dramatique. Quand tu lui demandes de détailler son opinion sur l'état de la planète, ben, elle est clairement au courant de manière assez lucide de ce qui se passe dans le monde. Et genre, elle a de bonnes raisons d'être assez désespérée. Des raisons d'adulte, en fait. Et donc, du coup, ben, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait désormais peut-être une catégorie, pas forcément une catégorie littéraire, mais un label sous lequel mettre ce genre d'histoire qui correspondent tout à fait à ce à quoi les jeunes sont confrontés et qui peuvent leur donner l'impression qu'on n'essaie pas de leur mentir et de leur faire croire qu'on vit dans un monde de bisounours, et tout en leur présentant des histoires qui les mettent en scène eux, en fait, parce que je pense que c'est ce qui va se passer dans l'avenir, ça va être à eux de prendre les choses en main dans un monde qui est parfois assez noir, mais qui n'est pas complètement dénué d'espoir non plus. Donc c'est une bonne chose qu'ils aient ce genre de... Enfin, moi, je sais que les romans, ça a beaucoup façonné l'adulte que je suis aujourd'hui. Donc, j'espère que les romans que nous, on va publier dans cette collection, ben, ça aidera à façonner les adultes qui seront demain, quoi.
Ce qui est amusant, c'est que vos deux romans, en fait, parlent de climat dans le titre. Le serment de l'orage et la saison des ravages. Donc, est-ce que c'était une coïncidence, d'après vous, ou pas ?
Il me semble que c'était une coïncidence, hein. Ouais.
Non, en fait, c'est une condition. On avait le droit d'être publié s'il y avait la météo dedans.
C'est ça, voilà. Il fallait qu'on parle de la météo.
En fait, je dénonce les orages. C'est super mal, les orages. C'est hyper désagréable.
D'ailleurs, il y en a un demain soir. Je propose d'organiser une manifestation dans les allées du festival pour protester. C'est inadmissible.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, du coup, de vos histoires, de ce roman ? Qu'est-ce que ça raconte ? Juste le début, bien sûr, pour donner envie à vos lecteurs, de la salle de vous lire.
Alors, dans mon cas, ça parle de catastrophes naturelles. Pour le coup, il y a effectivement des orages dedans. Il serait mieux qu'ils n'aient pas lieu. Non aux orages. Et donc ça parle beaucoup de survie, ça parle de jeunes garçons, Kieran, Matthew, Tobias et Charlie. Et ils ont survécu à des catastrophes naturelles. Il y a une espèce de réaction en chaîne, il y en a eu partout dans le monde en même temps. Donc c'est beaucoup inspiré évidemment de tout ce que j'ai vu aux informations au cours de ces dernières années dans la catégorie climat. J'ai eu l'impression qu'il y avait une multiplication d'ouragans, d'incendies, de tsunamis et de tremblements de terre. Donc je les ai tous mis là-dedans, tous en même temps. C'est bien, hein. Et donc du coup ça parle beaucoup de survie, en fait ces quatre garçons qui sont un peu aux quatre coins du monde au moment où les catastrophes ont lieu, ben ils vont plus ou moins se retrouver et être obligés de faire équipe pour essayer de survivre et de redonner un sens à leur existence parce que tout ce qu'ils connaissaient a complètement disparu à jamais. Donc du coup ça a beaucoup parlé de ça, c'est une sorte de... Mes amis qui l'ont lu le qualifient de road movie post-apocalyptique parce qu'ils passent beaucoup de temps sur la route à faire des feux de camp et parfois à se chanter des chansons pour se réconforter. Et donc voilà, donc c'est une espèce de trek à travers les États-Unis complètement dévastés.
En ce qui me concerne, l'orage, c'est au tout début, donc je peux vous le spoiler, c'est la toute première page, il y a un orage et il y a sept chevaliers. Alors, on est dans un Moyen-Âge un petit peu parallèle. Au début, je voulais que ça se passe au Moyen-Âge, en fait, ça va se passer dans un contexte fantasy qui est beaucoup plus libre, mais vous allez reconnaître quand même, en toile de fond, le Moyen-Âge, l'Angleterre, l'Écosse, des choses assez familières, mais bon, là, pour le coup, c'est plus du tout l'alerte climat aujourd'hui, il y a très très longtemps. Ça commence par un orage, il y a sept chevaliers qui prêtent serment sur une falaise par un orage terrible, et je ne vous dis pas pourquoi, sinon je serais vraiment un très très mauvais auteur. Et à partir de là, on passe sur les héros. Les héros sont deux chevaliers jeunes, c'est des gamins, je dis des gamins qui ont 20 ans parce que je suis vieux. Et en fait, il y a c'est un truc historique, ça s'appelait le Tyrocinium, c'est le tournoi des débutants en fait. Et le tournoi des débutants, c'est le premier tournoi qu'on fait où les chevaliers viennent se montrer, se faire remarquer, se faire recruter finalement. C'est vraiment une sorte de... Il y a des chasseurs de tête en fait, un peu comme aujourd'hui. Et donc nos deux héros, le lecteur se dit « Oh là là, ils vont être super forts, ils vont se faire remarquer par... ». En fait, ils ne sont pas super forts, ils sont totalement normaux. Ils sont bofs. Et donc à la fin, ils ne sont pas très très contents de leur performance. Et il y a un type qui vient les voir dans leur tente en disant « Voilà, moi j'ai hérité d'une terre, je ne suis personne, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup de moyens. La terre, elle est au fin fond nulle part au nord, dans les hautes terres, elle est dégueulasse, personne ne veut y aller. Et je vous propose une carrière là-dedans. » Et les types se disent, parce que la chevalerie quand même, c'est beau, ils se disent « Bon, on essaye, on y va. » Et à partir de là, ils y vont, ça ne va pas se passer très très bien. Si ça se passait bien, il n'y aurait pas de livre. Et je ne vous spoil pas plus.
Mais alors justement, vous répondez un petit peu à la question, mais je voulais quand même la poser. À part le prologue donc, qui met en scène peut-être des chevaliers fantômes, peut-être, la suite fait très probable. On a des détails sur l'héraldique, par exemple, sur le fait qu'un écu chargé en héraldique, c'est un signe de puissance, ou donc la description, comme vous l'avez dit, du tournoi des débutants. Et je voulais vous demander, du coup, est-ce que c'était de votre invention ou est-ce que ce sont des recherches historiques ?
Recherche, c'est beaucoup dire. Disons que c'est le fruit d'une culture historique d'amateurs, mais d'amateurs très très passionnés. Donc du coup, il y a beaucoup beaucoup de Moyen-Âge dans ce livre. Et il est matiné de fantaisie, d'abord parce que ça offre une extrême liberté à l'écriture et à la lecture, à l'imagination. Mais en même temps, ça repose sur des choses qui seront familières pour le lecteur. C'est-à-dire effectivement les chevaliers, la façon dont le monde se construit, l'équilibre social... l'héraldique, par exemple. Si j'étais allé, alors l'héraldique, je ne sais pas si vous savez, c'est les blasons, c'est l'art des blasons, c'est comment établir un blason. Un chevalier, au moment où il est adoubé chevalier, il va se faire son blason avec ses couleurs. Si les fils de duc, c'est un truc ultra compliqué qui est avec plein de symboles de famille et des symboles qui sont décodables par à peu près tout le monde. Et si les monsieur tout le monde, il vient d'être adoubé chevalier, il se dit, bah voilà, moi j'aime bien, je ne sais pas, moi j'aime les carottes, je vais mettre une carotte sur mon bouclier, quoi. En gros, c'est ça. Et si j'étais allé vraiment dans l'héraldique, je pense que personne ne serait allé à la page 10 de ce bouquin, parce que c'est extrêmement complexe. À l'époque, un chevalier, il se décode par ses armoiries. Donc on regarde un type arriver avec son bouclier dans un tournoi, et on se dit, ok, lui, c'est le fils de machin, c'est le deuxième fils du duc de quelque chose. Je suis pas allé aussi loin que ça, je suis assez libre dans mon approche des codes médiévaux, mais on retrouve les codes médiévaux quand même, et un petit peu le mode de vie aussi.
Chloé Jo Bertrand, vous avez beaucoup voyagé, je crois, dans votre vie. Est-ce que c'était pour vous, en fait, naturel, du coup, de prendre des garçons qui sont aux quatre coins du monde pour raconter cette histoire d'apocalypse ?
Je me souviens pas spécifiquement pourquoi j'ai choisi de les mettre aux quatre coins du monde. Je pense que c'était parce que les catastrophes que je voyais avoir lieu à la télévision avaient souvent lieu aux quatre coins du monde. En fait, j'ai choisi des pays, un peu pas, peut-être pas par paresse, mais parce que c'était le plus simple, c'était les zones du monde que je voyais sans arrêt dans la galère à cause du climat. Donc l'Inde qui a souvent des problèmes d'inondation, et les États-Unis qui ont eu pas mal de problèmes d'ouragan à un moment donné, c'était un peu comme une réaction en chaîne, et l'Australie parce qu'elle est dans une zone où il peut y avoir facilement des tsunamis et des incendies. Ils ont des problèmes d'incendie aussi pas mal l'été. Et après, comment est-ce que c'est connecté au voyage que j'ai fait ? Ben, c'est clair que le fait de voyager beaucoup, je pense que je parle pas juste pour moi, je le sais parce que j'ai communiqué avec beaucoup de gens qui voyagent aussi énormément, c'est que ça amène à une certaine ouverture sur le monde qui fait que quand on considère le monde, on le considère d'un point de vue plus large que si on n'a jamais quitté son village, slash sa commune, slash son pays. Et donc du coup, nécessairement, quand on invente une histoire, on pense pas forcément immédiatement à créer un personnage qui est comme notre voisin de palier, mais qui est plus comme... Parce qu'en fait, à force de voyager, à un moment donné, on finit par avoir l'impression que la Terre entière est ton voisin de palier, en fait, quelque part. Donc du coup, au moment de créer un personnage, on a énormément d'espace et d'options et de possibilités. Après, ouais, encore une fois, je pense que les problèmes de climat, c'est un problème qui concerne tout le monde. Après, j'aurais pu choisir de faire en sorte que tout se passe en France. Ça aurait pu se passer entièrement en France, l'histoire. Vu la situation, le voyage n'aurait pas forcément été moins long. Et non, j'ai choisi ces personnages-là aussi parce qu'ils étaient inspirés d'autres personnages fictifs que je connaissais et qui étaient un peu des quatre coins du monde. Et j'aimais bien cette idée, un peu.
Et pourquoi quatre garçons, alors, pour raconter cette fin du monde ?
Pourquoi il n'y a pas de filles ? C'est ça, votre question ? Du coup, il va falloir que je vous dévoile un petit peu des trucs dont j'ai parfois un petit peu honte. Mais je suis un nerd. Je regarde beaucoup de séries, beaucoup trop, et je les aime beaucoup trop. Et je passe énormément de temps les yeux ouverts dans mon lit à fixer le plafond et à réimaginer l'histoire que j'ai vue à la télé, parce que souvent je suis dégoûtée par ce qui s'est passé. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir solidaires de ce sentiment-là tout de suite maintenant, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bref, parlons d'autre chose. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais une douzaine d'années, je regardais Heroes avec mon papa. Et j'aimais beaucoup la plupart des personnages principaux et j'imaginais qu'est-ce qui se passait s'ils se retrouvaient tous téléportés dans un univers post-apocalyptique où il y a des zombies et des micro-robots qui veulent les tuer. Il n'y a plus de zombies, il n'y a plus de micro-robots et c'est plus les personnages d'Heroes. Mais à la base, c'était les cinq personnages principaux. En fait, il y en a un cinquième qui apparaît, mais seulement à partir du tome 2, qui étaient mes cinq personnages préférés dans Heroes, qui se trouvaient être quatre hommes et une femme. Et donc, du coup, je les ai transposés là-dedans et ils ont gardé le même genre qu'ils avaient dans Heroes, en fait. C'est juste ça, en fait, qui s'est passé. J'ai pas choisi leur genre, c'est quasiment la seule chose qui est restée d'Heroes, en fait. Ils ont plus les mêmes prénoms, ils ont plus les mêmes âges, ils ont plus les mêmes caractères, ça a plus rien à voir, mais c'est le même quota homme-femme. C'est juste ça.
Et on a l'impression, parce qu'il y a une telle concentration de catastrophes dans un temps très très réduit, que la Terre se venge, quoi. Est-ce que c'était un peu une personnification ou c'est moi qui l'ai lu comme ça ?
J'ai toujours eu cette croyance que la Terre était une sorte d'organisme, un ensemble, pas forcément vivant et conscient, mais en tout cas que c'était un ensemble et que donc il y avait des règles biologiques quelque part qui devaient s'appliquer. Et j'ai toujours eu l'impression que, en tout cas, moi j'ai le sentiment, mais après je suis pas un expert en climat, mais quand je regarde les informations internet, ce genre de choses, j'ai l'impression d'être bombardée par le fait qu'on a des problèmes climatiques de plus en plus graves, de plus en plus nombreux et de plus en plus rapprochés partout dans le monde. Et du coup, je me dis que ce serait quelque part un peu une sorte de logique biologique, parce que dans tout organisme vivant, même nous, dans notre corps, quand on est malade, qu'on a un microbe, ben, notre corps il se bat contre et il essaie de le détruire. Et nous, on est un peu devenu le virus de la Terre. Donc ce serait logique que la Terre ait une sorte de réaction naturelle, automatique, de défense, qui serait de nous détruire, en fait, pour se débarrasser de nous, parce qu'on est devenu problématique au bien-être de la Terre. Et qu'il faut... C'est un peu négatif ce que je dis, je pense qu'on a encore du potentiel pour cesser d'être aussi négatif et peut-être que la Terre aura plus trop envie de se débarrasser de nous si on s'améliore un peu là-dedans. Mais du coup, oui, c'était ce que je voulais. Après, l'avantage d'avoir choisi de raconter l'histoire du point de vue de mes quatre personnages principaux, qui sont tous quasiment des enfants, le plus âgé il a 20 ans, c'est qu'ils savent pas pourquoi ça s'est produit et ils le sauront jamais, donc j'aurai jamais besoin de détailler les détails techniques. Et ça, franchement, j'avoue, c'est de la paresse de ma part.
Alors, Gabriel Katz, pourquoi avoir choisi de placer votre texte en Anglia, donc l'ancien nom de l'Angleterre, pourquoi pas en Francie ?
Pour des raisons géographiques, en fait. C'est-à-dire que l'esthétique du nord de l'Angleterre, de l'Écosse, du mur d'Adrien, qui s'appelle pas le mur d'Adrien, mais qui est cette espèce de mur en ruine qui reste, qui est l'ancien mur romain qui barrait, en fait, les limites de l'Empire romain, tout ça, il y a une esthétique qui parle à tout le monde, en fait. C'est les falaises, c'est le vent, c'est les nuages bas, c'est la mousse, c'est la pluie en transversale. Et ça, on n'a pas trop en France. Bon, il y a un peu en Bretagne, ouais, mais ça dépend des saisons, ça dépend des moments. Il y a quelque chose de très profond là-dedans qui est ancré dans l'imaginaire collectif, je crois, en fait, qui est vraiment ce côté... C'est ce qu'on trouve dans le cycle arthurien, par exemple. Le cycle arthurien, il est complètement suspendu, mais pour les gens, dans l'esprit des gens, c'est l'Angleterre, en fait. C'est l'Angleterre, c'est le roi Arthur, c'est l'Angleterre. Alors que somme toute, c'est un peu la Bretagne, qu'ils appelaient la petite Bretagne à l'époque, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est vraiment esthétiquement, c'est des conditions géographiques et climatiques qui correspondent au côté un peu sinistre du complot qui se cache derrière ça. En France, ça aurait été plus lumineux. Et le bouquin n'est pas extrêmement lumineux, il est nuageux, il est orageux, il est un peu dur.
Oui, il fait tout le temps quand même super mauvais, il y a de la brume, il y a une telle brume qu'il ne voit pas à un mètre.
C'est ça. Et comme toujours, en fait, j'écris toujours au mauvais moment. J'ai écrit des bouquins de fantasy qui se passaient dans des royaumes extrêmement chauds. J'écrivais ça en plein hiver alors qu'il neigeait. J'étais à Asnières-sur-Seine. Bon, forcément, inutile de dire que bon, c'est pas le Maroc. Et j'ai écrit au Maroc en vacances le tome 3 de ma première série qui se passait dans la glace. Celui-là, je l'ai écrit, il faisait très chaud. Mais effectivement, dans le bouquin, c'est quand même... C'est des conditions climatiques qui sont voilées, qui sont dures, qui sont sombres et qui soulignent un petit peu ce qui se passe derrière, en fait.
Et la thématique, du coup, de construire une baronnie, j'ai trouvé ça original. Hein, parce que d'habitude, les héros en fantasy, ils font une quête, ils partent détruire un ennemi. Là, ils essayent de s'implanter.
Oui, en fait, ils essayent. Le type qui les recrute, c'est un banneret. Alors, banneret, c'est un chevalier à qui on permet de porter une bannière. A priori, ça lui suffit, il est content, sauf qu'au bout d'un moment, il est plus si content que ça. Il voudrait être seigneur. Il a tellement attendu une seigneurie qu'on a fini par lui en donner une. Et cette seigneurie, c'est un trouar au fin fond de nulle part à la frontière des hautes terres, qui est complètement en ruine et qui est, alors je vous spoil un petit peu, qui est un peu squatté en plus par des brigands. C'est assez difficile, c'est assez violent. Et le but des personnages au début, c'est deux petits jeunes qui sont avec lui et lui. Donc au début, ils sont vraiment ils sont une poignée, ils sont trois chevaliers et lui. C'est d'essayer de faire de cette espèce de ruine, de cette espèce de truc qui s'éboule, un vrai château avec une vraie mécanique, avec des paysans qui, à ce moment-là, sont hyper terrorisés, des paysans relativement heureux. C'est vraiment construire une terre à partir de rien. Effectivement, il n'y a pas de quête, au début en tout cas, il n'y a pas de quête personnelle, initiatique, etc. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de terre infâme qu'on nous a donnée.
En plus, ils doivent chasser une sorte d'usurpateur.
C'est ça, quand ils arrivent, la terre est squattée, parce que le squat, ça ne date pas d'hier. Cette terre est restée 10 ans sans personne, est à moitié en ruine, etc. Donc quand ils arrivent pour récupérer leur terre, ils trouvent un type qui est là, qui dit « moi je suis baron, il a une couronne sur la tête ». Or, les barons ne portent pas de couronne, mais le mec n'en sait rien, parce que c'est un brigand. Et forcément, il faut le chasser pour commencer déjà à reprendre possession des lieux.
Comment ça s'est fait, du coup, l'inscription de votre histoire dans cette nouvelle collection ? Parce qu'il me semble, Gabriel Katz, que vous n'étiez pas chez Bragelonne avant.
Non, je n'étais pas chez Bragelonne. j'étais pas chez Brajlon, on se tournait autour en fait avec Stéphane, qui est le boss de Brajlon, et puis à un moment on avait envie de faire un truc ensemble. Le truc, c'est que moi, j'avais une série qui tournait chez Screenéo, qui était rachetée chez Pocket, tout ça, qui marchait bien, j'ai des bouquins de littérature générale, tout ça. On se dit, bon, à quel moment, quoi? Au moment où lui a sorti sa, a ouvert cette collection de Young Adult, il m'a dit, voilà, et pourquoi pas? Est-ce que tu voudrais tenter l'aventure là-dedans? Je trouvais que c'était très intéressant, plutôt que de sortir un énième fantasy chez Brajlon ou ailleurs, d'essayer de tenter l'aventure dans quelque chose de neuf, justement, avec, a priori, un nouveau public, ou du moins, un public qui s'élargit, parce que, encore une fois, j'ai beaucoup d'ados. Et voir un petit peu si ces univers-là pouvaient effectivement se décliner ailleurs. Donc c'est une aventure qui est assez excitante pour moi parce que c'est un petit côté nouveau départ en fait. Non pas que je sois un très vieux briscard, mais j'ai fait 13 bouquins depuis 2013, c'est beaucoup. Et celui-là, c'est un petit peu, c'est tout nouveau. J'espère que ça va marcher.
Et vous ?
Alors moi du coup, comme je l'avais dit, dans mon cas, le roman était déjà paru chez Brajlon dans d'autres circonstances. Et en fait, jusqu'ici, il était paru uniquement en ce qu'on appelle le frimo numérique. C'est-à-dire qu'avant tout, il était disponible en numérique. Et pour l'avoir en papier, il fallait le commander à son libraire. Donc il était quasiment pas disponible en papier. Et mon éditrice, Hélène, bénie soit-elle, Seven Blessings sur sa tête, etc. etc. Ça faisait depuis que je lui avais filé le manuscrit, il y a plus de 2 ans et demi, qu'elle bataillait pour qu'on le sorte dans une collection papier parce qu'elle croyait vraiment beaucoup en cette histoire. Et je la remercie parce qu'elle a vraiment porté le truc à bout de bras avec moi. Et je sais qu'aujourd'hui, si on en est là, ben, c'est en grande partie grâce à elle. Parce que c'est vraiment battu pour le faire lire en interne. Parce qu'en fait, on lit pas forcément les romans des autres collections en interne, ne serait-ce que par manque de temps. Parce que je sais que dans l'édition, je connais des éditeurs qui ont plus le temps de lire autre chose que les manuscrits qu'on leur envoie, tout simplement parce qu'ils ont juste pas le temps, quoi. Donc, du coup, c'est assez normal que, surtout dans une grande maison comme Brajlon, il y a un gros catalogue, qu'ils aient pas forcément le temps de lire ce que publient les autres. Et donc, Hélène essayait désespérément de faire lire ce qui s'appelait à l'époque Il nous reste le ciel au directeur de collection des collections papier, notamment à Castlemore. Et du coup récemment, bah, juste au moment où Castlemore, la directrice de Castlemore l'avait enfin lu, il avait enfin dit mais oui t'as raison, faut qu'on le sorte chez Castlemore, merci, ça fait 2 ans et demi qu'on essaie de te le faire savoir. Et puis à ce moment-là, il y a Big Bang qui s'est conçu et donc du coup on a failli le sortir chez Castlemore, puis au dernier moment on nous a arrêté en nous disant non stop, attends, on est en train de faire autre chose. Et donc du coup il serait plus à sa place chez Big Bang, ce qui est juste, je pense, qui correspond davantage à la ligne éditoriale de Big Bang. Donc du coup on a décidé que on y sortira en même temps que le Serment de l'Orage pour faire l'ouverture, ce qui était, je pense, une très bonne chose.
Et en fait, la série porte de nouveaux noms, puisque votre série « Il nous reste le ciel », le premier tome, c'était « Sous les cendres ». Et le deuxième, « La veine du pendu ».
On a changé un peu tous les titres. Alors, j'ai des retours mitigés des gens là-dessus. Oui, je sais.
« Il nous reste le ciel », c'est beau comme titre.
Merci. C'est pas comme si on n'avait pas dit 150 fois depuis que j'ai révélé le nouveau titre. Merci. Mais oui, je sais, c'était de moi. C'était poétique, en effet. J'ai un petit côté poète en moi. Oui, effectivement. Et donc, du coup, comme on le sortait vers un nouveau public qui était un peu plus... En fait, on visait avant tout les 15-18 ans, mais comme je l'ai dit, je le vends vraiment à tous les âges. J'ai des lecteurs de 13 ans et j'ai des lecteurs de 60 ans. Donc, voilà, je le vends vraiment partout. Et en fait, le public visé, les 15-18 ans, d'après le service commercial de Brajlon, et je pense qu'ils s'y connaissent mieux que moi là-dessus, ils aiment bien les titres anglophones, et ils aiment bien les titres courts qui claquent un peu. Donc Apocalypse Blues, c'était plus court et plus anglophone qu'Il nous reste le ciel. Et il y avait aussi le fait que, comme on l'avait déjà sorti une fois, pour éviter qu'il y ait une sorte de désintérêt général du public pour un truc qu'ils avaient déjà vu sortir, l'équipe commerciale, encore une fois, a suggéré qu'on change carrément tous les titres. Et donc, du coup, effectivement, la saison des Ravages, on a trouvé ça à plusieurs. Genre, on a fait plusieurs suggestions, on a fait une sorte de brainstorming avec les éditeurs et moi, et on a mélangé plusieurs des trouvailles qu'on avait eues jusqu'à ça. Et pareil, La veine du pendu du tome 2, ça c'est pareil, il va falloir que je fasse mon deuil, il va plus s'appeler comme ça. Il va s'appeler Le crépuscule du monde, du coup, voilà.
Après, je rajoute un truc, c'est qu'il a été prouvé dans plein d'études, principalement américaines, que quand un titre est joli, mais qu'il est un peu perché, les gens ne marchent pas, même en film, même en série, etc. Donc, la saison des ravages, c'est la saison des ravages, on le voit, en fait, c'est visuel. Alors que quand le titre est un petit peu comme ça, poétique, perché, ça peut être super beau et en même temps ça attire moins.
Au final, Il nous reste le ciel, ça disait pas grand chose de ce qui se passait à l'intérieur du roman. En fait, c'était juste un truc que les personnages se disaient à plusieurs reprises et qui se disent encore. D'ailleurs, ça pour le coup, je l'ai pas enlevé pour se réconforter parce que c'était le truc qui leur restait. Donc après, c'est vrai que c'était beau et poétique, mais ça vendait pas forcément bien le livre. Je sais pas, c'est vous qui savez le mieux en fait, au final.
On pourra poser la question effectivement tout à l'heure au public sur la question du changement de nom, parce que je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce que cette réédition au format papier, ça a changé pour vous ?
Il est sorti le 10 avril, alors là pour le coup c'est un peu dur à dire. Après j'ai constaté en tout cas que j'avais davantage de retours plus rapidement en tout cas et en plus grand nombre sur internet depuis qu'il est sorti que j'en avais eu pour Il nous reste le ciel. qu'il était sorti pendant, je ne sais plus en quelle année il est sorti, mais ça faisait au moins 2 ans et demi, je crois, qu'il était sorti. Et je crois que là, en un mois, j'ai eu plus de retours sur Apocalypse Blues que j'en ai eu en 2 ans et demi sur Il nous reste le ciel. Donc déjà, il a eu plus de visibilité, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de libraires qui l'ont eu entre les mains avant sa sortie, qui l'ont lu avant et qui du coup ont décidé de le demander. C'est pareil, j'ai été invité aux Intergalactiques de Lyon parce qu'ils ont reçu les épreuves non corrigées. Et à la base, j'étais pas du tout sur le programme et ils l'ont lu, et comme ça correspondait exactement au thème qu'ils avaient cette année-là, ben, du coup, ils m'ont fait venir et ils auraient pas reçu d'épreuves non corrigées s'il était resté en primo numérique, parce qu'en primo numérique, il n'y a pas d'épreuves non corrigées. Donc du coup, en termes de visibilité, en tout cas au niveau professionnel, j'ai vu une vraie différence, ça c'est sûr. Et même au niveau public, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en salon et qui l'ont soit lu, des jeunes qui l'ont lu au CDI notamment, j'ai beaucoup de documentalistes qui l'ont pris pour leur école. Et juste des gens qu'on a entendu parler, alors qu'avant Il nous reste le ciel, il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qu'on avait entendu parler. Et même des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils surveillent beaucoup les publications de Brage Jeune et qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'Il nous reste le ciel. Par contre, Apocalypse Blues, dès qu'il est sorti, ils ont su qu'il allait sortir. Quoi. Et donc du coup, ils ont quand même... Il y a quand même eu clairement plus de visibilité. Ça, c'est clair. La plus grosse différence, c'est ça. C'est qu'il est clairement plus visible qu'Il nous reste le ciel.
Et Gabriel, vous, sur la question de l'exposition, est-ce que vous avez déjà des retours ou pas ?
Alors, j'ai des retours super enthousiastes, mais pour l'instant, je n'ai pas encore de contact direct avec le fameux public young adulte. Alors, j'ai l'impression d'être dans la fosse aux lions. Vous voyez le gladiateur, là, et il attend qu'on ouvre la herse et on va lâcher les lions. Parce que j'ai l'habitude du public adulte, et il est assez fidèle, il est assez enthousiaste, il est à fond, etc. J'ai pas encore vu la réaction des young adultes et je l'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai eu des petits trucs, alors soit des blogs, soit des petites réactions sur le net, etc. Mais j'ai pas encore rencontré ou des classes ou des choses comme ça. Je me suis dit, soit je me fais lyncher par les classes qui me disent non mais c'est juste imbitable ton truc, soit ils aiment bien. Je suis super impatient de les rencontrer.
Parlons un petit peu des couvertures, du travail éditorial. Parce que peut-être c'est pas trop connu dans la salle comment ça se passe. Est-ce que vous avez été consulté Chloé, est-ce que vous aviez été consulté pour les premières? Est-ce que vous avez été consulté pour la nouvelle? Comment ça s'est passé?
Alors, j'ai toujours été consulté au niveau des couvertures, c'est-à-dire dans le sens où on me l'envoie en me demandant est-ce que tu es d'accord, est-ce que ça doit. Et je pense que si je hurlais au scandale, on en rediscuterait. Après, j'ai jamais eu de raison de hurler au scandale. La couverture, où vraiment, j'ai beaucoup participé à sa conception, mais c'est parce que dès le début, en fait, au moment où j'écrivais le livre, donc on parlait pas encore de couverture, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. C'était le second tome d'Il nous reste le ciel, donc l'ancienne version. On les a pas là, donc du coup, je peux pas vous montrer à quoi ça ressemblait, mais c'était pas ça du tout. En fait, c'était une route à chaque fois qui était représentée, et il y avait un personnage sur la route. Et donc le premier tome, c'était pas moi qui avais choisi, mais je trouvais que ça correspondait assez bien à l'atmosphère du roman. Donc il y avait une route, il y avait un personnage. On avait décidé que c'était Charlie, mais de manière complètement aléatoire parce qu'il était de dos avec une capuche. Donc on pouvait pas du tout savoir qui c'était. Et le second tome, et je savais que je voulais qu'il y ait de la neige partout parce que ça se passe en plein cœur de l'hiver, et je voulais qu'on voit Tobias dessus. C'était genre vraiment, je savais qui est-ce que je voulais qu'on représente pour le coup, pas qu'on juste mette un personnage lambda et que chacun puisse dire qui pense que c'est. Là pour le coup, je savais que je voulais que ce soit, et même jusqu'au moindre détail, j'avais même dit que je voulais que j'ai des empreintes dans la neige derrière lui jusqu'à lui, mais pas des empreintes de bottes, des empreintes de loup, ceux qui ont lu le bouquin sauront pourquoi. Et donc là pour le coup, c'est carrément moi qui leur ai dit voilà ce que je veux qu'on fasse, et même quand on m'a envoyé le premier truc, on m'a dit ouais, on va enlever les espèces de trucs qu'il y a sur le côté de la route. J'ai fait non, les enlevez pas, c'est génial, ça fait post-apo, c'est nickel, on garde. Et là, c'est vraiment la couverture sur laquelle j'ai plus participé, elle était vraiment super belle, mais je trouve que celle-là est vraiment magnifique aussi. Pour le coup, mon éditrice Hélène avait fait des essais avec des demi-visages comme ça. C'était pas forcément celui-là qui avait été choisi, mais c'était juste pour voir ce que ça donnait. Et c'était pas du tout là-dessus qu'ils allaient partir au niveau des couvertures, mais elle m'a envoyé les essais et j'ai dit mais c'est cool, genre on pourrait faire un truc avec ça. Elle m'a dit moi si tu penses que c'est cool, je vais leur dire on va faire ça. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait, et après on a eu l'idée de, comme on avait un gros plan sur l'œil, d'en profiter, qu'on avait suffisamment de place pour y faire apparaître quelque chose sans que ça fasse un peu brouillon, un peu flou, dans le cas présent c'est une tornade, et la balance des couleurs sur celle-là est vraiment très réussie. J'espère que ça va être aussi réussi sur le 2.
Est-ce que c'était Abigail Lacourlie aussi qui avait fait la première ou pas?
Non, c'était quelqu'un d'autre je crois. Ouais, il me semble que c'était quelqu'un d'autre, je veux pas dire de bêtises, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'était quelqu'un d'autre.
Et vous, Gabriel?
Alors, la couve, c'est un truc très, très important. C'est un truc très important pour un auteur. J'ai toujours été un peu chieur, passez-moi l'expression, sur mes couves, parce que c'est une vraie identité. C'est-à-dire qu'une couverture dans laquelle l'auteur ne se retrouve pas, c'est une catastrophe. C'est comme si on vous oblige à vous habiller d'une façon que vous détestez. Moi, si je venais ici, par exemple, en jaune, vert et rose, je serais un petit peu mal. C'est vraiment la même chose. Et défendre un bouquin dont on n'aime pas la couve, c'est une horreur. Jusqu'aujourd'hui, sur tous mes bouquins, j'ai eu le mot sur la couve et je me suis gouré sur certains. C'est vraiment La Nuit des Cannibales, que je ne citerai pas, par exemple. C'est une erreur de couve. On dirait un bouquin d'horreur, ce n'est pas un bouquin d'horreur. Si les seuls bouquins, les adaptations pocket ont changé parce que c'était par rapport au format, on ne pouvait pas reprendre le grand format, etc. Donc à chaque fois, j'ai donné mon avis sur les couves et je pensais avoir les meilleures expériences possibles avec les couves. Et je suis arrivé chez Bragelonne, et à partir du moment où je suis arrivé chez Bragelonne, je me suis dit qu'ils ont un boulot sur la couve que je n'ai jamais vu ailleurs. Mais vraiment, là pour le coup, c'est pas du tout pour envoyer des fleurs à mon éditeur, c'est un énorme boulot sur la couve. On a fait beaucoup d'allers-retours, on est parti sur pas mal de choses. C'est un symbole en plus, c'est une figure symbolique, c'est assez difficile à rendre. On a bossé avec l'illustrateur qui est Didier Graffet, qui est excellent, sur chaque détail de la couve, et ça va être décliné en fait sur 3 tomes et plus si affinité. Donc c'est très important, ça doit en dire un maximum sans en dire trop, ça doit donner une tonalité sans que ce soit bizarroïde, qu'on ne comprenne rien. C'était une couve difficile à faire en fait. Ils ont fait un super boulot là-dessus, je suis très très content de cette couve. Et au début j'avais un petit peu peur parce que je me disais honnêtement, une figure, c'est mon idée de mettre une figure en couve, je me suis dit ça se trouve ça va être très très moche ou hyper pas du tout attractif, et au final je l'adore.
Est-ce qu'il y a un petit côté Game of Thrones ou sur la couve ou...
Ouais, ça, tout le monde me le dit, parce qu'effectivement il y a des symboles, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des symboles de seigneurs régnants, etc. Non, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a effectivement un loup qui peut faire penser « Ah, ce n'est pas Stark, ça n'a rien à voir avec Stark !» Et au moment où on commence à lire le livre, ou du moment où on commence à s'enfoncer dans le livre, on comprend que les symboles de cette couve n'ont vraiment rien à voir avec des seigneurs régnants. Mais j'avoue que ça pouvait faire penser à... Et honnêtement, on a eu peur à un moment que justement on soit accusé de plagiat, à savoir « Oui, bon, Game of Thrones, moi qu'est-ce que je fais ? Je mets mon loup là. » Mais non, en fait, ça n'a vraiment, vraiment rien à voir avec le... avec ce que c'est. Malheureusement, je ne peux pas du tout spoiler ce que c'est au fond. Mais petit à petit, au fur et à mesure de la lecture, vous allez comprendre ce que c'est que la figure derrière et, ce... et le rapport avec l'orage.
Et alors justement, donc, la suite, vous savez quand est-ce que vos suites sont prévues ? Elle est écrite, évidemment.
Nous, du coup, tout est écrit. Hein. Ouais. Le seul tome qu'on n'a pas encore traité avec l'éditeur, c'est le tome 3. On n'a pas eu le temps de s'en occuper parce que, du coup, au moment où j'ai fini d'écrire, je l'ai envoyé, on s'est mis à travailler sur la republication. Le 2, on a quasiment fini les corrections éditoriales. Donc, a priori, on va tenir notre délai, c'est-à-dire qu'il va sortir en août. J'espère que je ne vais pas me faire taper dessus pour l'avoir dit. Mais voilà, normalement, il sort en août. Je n'ai pas la date exacte encore. Mais je pense que ça va être bon parce qu'on est... on s'est bien débrouillé. Le 3, je préfère rien vous dire, mais on a une date. Enfin, on a une date, on a un mois. Qu'on vise, mais c'est si on tient notre délai sous réserve. Donc, comme on n'a pas encore commencé le retravail éditorial, je préfère pas vous donner le mois.
Alors moi, j'ai un syndrome, je sais pas quel nom mettre dessus, mais j'ai la chance d'avoir plusieurs voix, plusieurs éditeurs, et ça marche plutôt pas mal. Et donc, quand on me demande si je veux en faire un autre, je dis oui. Et donc, je dis oui pour tout. Et alors, là, par exemple, d'ici la fin 2019, je dois boucler un polar qui doit sortir à Noël. J'ai un polar qui sort tous les Noëls. J'ai un bouquin de littérature générale, parce que j'en ai un qui est sorti chez Fayard, qui a bien marché, ils en veulent un autre. Et j'ai la suite du Serment de l'Orage. Donc, il faut que j'écrive tout ça. Il faut... Bon, j'écris vite.
Avant le 31 décembre
Avant, oui. Avant, oui.
Mais il faut dormir, Gabriel, il faut dormir.
Je ne dors pas énormément, mais bon.
Ça peut être bien.
Si, je mange beaucoup, par contre. Mais du coup, normalement, il sera à la rentrée. Je vais essayer de tenir les délais. Au pire des pires des pires, il sortira pour les fêtes. Mais je vais essayer de tenir les délais de la rentrée parce qu'en fait, j'aime énormément cette histoire et je crois que je vais intervertir avec un de mes autres bouquins pour essayer de le sortir avant, histoire d'avoir un petit peu de tenir le rythme.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire par rapport à la collection Bragelonne ?
Achetez-le, il est bien.
Oui, à part ça.
Ouais, c'est bien, je suis d'accord.
Donc, on nous a demandé de laisser du temps pour les questions, il n'y a pas de souci. Est-ce que le public a des questions ? Qu'est-ce que vous voulez savoir
Normalement, on nous a signalé qu'il y avait 10 minutes pour des questions, donc si vous n'avez pas de questions, on a l'air un peu beau. Donc, essayez d'avoir des questions, ce sera bien.
Faites un effort, s'il vous plaît, on est venu quand même.
Sinon, je sors la question.
Ah, une question, oui, c'est bien.
Non, l'image n'est pas du tout négative. Disons qu'il y a moins d'orages qu'on pourrait le penser. Il y en a un terrible début et il y en a à peu près tout le temps. Disons que c'est l'ambiance orageuse, en fait. C'est vraiment l'ambiance du ciel bas. Après, c'est pas non plus totalement le sujet du bouquin, hein, mais vous trouverez pas mal d'orages dedans, c'est vrai.
L'orage est plutôt chez vous, du coup.
Non, mais en fait, au début, il y a des catastrophes naturelles, mais après... Une fois que les catastrophes naturelles sont passées, on revient plus ou moins à un climat pas normal, mais semi-normal. C'est-à-dire que de temps en temps, en plein été, il peut y avoir des orages, effectivement, mais ce n'est pas considéré comme une catastrophe naturelle. Ça peut même être considéré comme un truc joli qui arrive au ciel, puisque c'est un peu le truc auquel il se raccroche de temps en temps. Donc oui, pour le coup, ça va.
En fait, l'orage, c'est un très, très beau décor pour certains types d'histoires. Imaginez un chevalier un peu décharné avec une cape qui claque dans la tempête, des cornes de cerf, etc. En plein soleil avec des oiseaux qui gazouillent et des palmiers. Ah, c'est sympa, mais tout de suite, ça le fait moins, en fait. Ça le fait moins que le ciel orageux et les éclairs, en fait.
D'autres questions ?
Sinon, moi, je sens sur d'où tirez-vous votre inspiration. Hein.
La question de la mort.
Eh ben oui.
Allez-y, posez des questions, si vous voulez, parce qu'elle a une question de merde à nous poser, sinon.
Merci.
Oui, oui, oui.
Dans la mienne ? Alors, pour le coup, ça c'est, je vais un peu vous spoiler, mais c'est assez important comme propos. Au début du bouquin, les femmes sont traitées et considérées comme elles étaient au Moyen-Âge, c'est-à-dire de façon absolument abjecte, c'est-à-dire qu'elles sont réduites à des tâches ménagères, je fais la couture, etc., etc. Et on se dit, mon Dieu, c'est affreux, ça n'a rien à voir avec le monde actuel, bien sûr, ça ne vous rappelle rien, les femmes sont tellement bien traitées dans notre monde. Et petit à petit, il y a un glissement dans le bouquin. On s'aperçoit en fait que le statut des femmes et certains personnages féminins du roman fort qu'on estime placés là où ils doivent être, c'est-à-dire à la cuisine ou en train de coudre, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout leur destin. Je ne peux pas vous spoiler ce qui se passe parce que c'est un coup assez énorme compte tenu du fait qu'il y a un fond médiéval. Mais justement, le statut de la femme dans le bouquin est quelque chose de majeur à partir de la moitié du livre en fait. Il y a une vraie bascule. Si je vous livre la bascule, vous n'allez pas prendre de plaisir en le lisant, donc je ne le dis pas.
Dans mon cas, du coup, comme je l'ai dit, c'est les cinq personnages qui sont du coup à la base inspirés de personnages d'Hiros. Ben, il y en avait cinq, il n'y avait pas juste ces quatre-là, il y avait aussi une femme. Elle apparaît uniquement à partir du tome 2. Par contre, au niveau des personnages secondaires, alors dans le tome 1, ils sont un peu au milieu. Enfin, vu que les catastrophes viennent d'avoir lieu, il y a une sorte d'exode général qui s'est passé. Donc mes personnages sont un peu au milieu de nulle part, ils croisent très peu de gens. Donc nécessairement, ils croisent très peu de femmes, pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que sur le nombre, forcément, ils croisent des hommes et des femmes. Ils vont aussi en croiser dans le tome 1, hein, ça arrive, mais ils croisent pas beaucoup de gens. Donc ils croisent ni beaucoup d'hommes, ni beaucoup de femmes, ni l'un ni l'autre. À partir du 2, il y a un peu plus de monde, parce qu'à mesure qu'on avance chronologiquement, qu'on s'éloigne des catastrophes naturelles, ben, les survivants essaient plus ou moins de se retrouver les uns les autres et de faire quelque chose, de s'organiser, quoi. Donc nécessairement, mes personnages finissent par tomber sur des groupements plus grands, mais c'est encore une fois à partir du tome 2. Et donc à ce moment-là, j'ai des personnages secondaires qui parfois prennent énormément de place, au point que je commence à me dire que je vais écrire des spin-offs sur eux, en fait, et sur elles, du coup, qui prennent de plus en plus de place. Et c'est dans le tome 3 que j'ai écrit des personnages de femmes que j'ai vraiment adoré écrire, et tellement adoré que vraiment, à la fin, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Elles sont vraiment cool. Donc il est possible que dans l'avenir, il y ait des spin-offs qui surgissent, tel des marguerites au printemps.
Je sens qu'on va avoir droit à la question.
Attendez une seconde, je vérifie s'il y a le temps. Purée, il reste du temps en plus. Non, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ça en direct live, vas-y Gabriel, on s'y met. Sur le climat, sur le climat.
Ça y est. Pour répondre, je pensais ne jamais avoir envie d'écrire à quatre mains parce que c'est quelque chose de très solitaire en ce qui me concerne pour deux raisons. D'abord, mon inspiration commence dans la douche, donc en général, j'apprends seul. Et, ou si la personne avec qui je l'apprends n'écrit pas. Et ça mûrit vraiment tout seul, ça sort tout seul, c'est un travail complètement introspectif. Et petit à petit, en traînant dans le milieu avec des gens qui sont devenus des amis, je me suis aperçu qu'il y a des gens avec qui j'ai des univers qui sont assez proches. Pour ne pas le citer, Olivier Gay, qui est un très bon pote, qui a écrit de la fantasy, qui est chez Brajlon aussi. On n'arrête pas de dire qu'à un moment ou à un autre, on va écrire un bouquin ensemble, parce qu'on a des univers qui sont très très proches, ça pourrait être très amusant en fait, d'écrire à quatre mains. Donc, je ne sais pas à quel moment ou si ça se fera un jour. Ça peut être vraiment rigolo. Le tout est de doser de sorte à ce que, alors c'est soit un chapitre chacun, soit un personnage chacun, soit je ne sais pas très bien comment ça se fait. J'ai une très longue expérience de l'écriture, j'étais prêt de plume avant. Puis j'ai écrit mes bouquins, j'ai écrit 13 bouquins, etc. Par contre, l'écriture à quatre mains, même si je suis scénariste et que j'écris avec d'autres scénaristes, mais c'est pas du tout la même chose, je ne sais pas comment ça se passe. Donc le jour où j'essaierai, ce sera drôle, c'est probablement difficile, mais c'est possible que je le fasse, oui.
Dans mon cas, il se trouve que j'ai écrit une nouvelle à quatre mains qui reprenait un Tobias, un des personnages, mais en fait, c'était une... à l'époque, c'est... même Il n'aurait su celle, n'était pas publié, pas du tout prêt de publier. C'était à longtemps, je pense que j'avais peut-être 16-17 ans, un truc comme ça. Et c'était une autre version de l'histoire. Tobias était beaucoup plus âgé qu'il est dans le roman et ça se passait pas au même endroit. Il était pas complètement différent de ce Tobias-là, mais il avait pas mal de caractéristiques quand même. À l'époque, je communiquais avec un autre auteur qui s'appelle Denis Renaud. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Il n'est pas énormément publié. S'il l'est, il est sûrement sous un pseudo, le connaissant. Et lui-même, il avait des personnages dans un univers post-apocalyptique. Et parmi ces personnages, il en avait un qui s'appelait Maggie, qui était assez cool comme personnage, qui était attardé mental, qui avait deux flingues et qui aimait bien désinguer des zombies imaginaires. Et on n'avait aucun moyen de les faire se rencontrer. On a décidé qu'on allait le faire quand même. Donc on a décidé qu'il faisait un rêve et qu'il se retrouvait dans le même rêve, en fait. Donc on a écrit une nouvelle à quatre mains. On a fait ça complètement à l'arrache à la One Again. Chacun de nous écrivait un bout du point de vue de son personnage, puis l'envoyait à l'autre qui écrivait la suite du point de vue du sien, etc. Et on a écrit toute une nouvelle. Elle est sur Internet. Elle est sur le site de Éric Vosset, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Pour la trouver, tapez nouvelliste de la semaine Chloé Bertrand. Ce sera plus facile de la retrouver comme ça. Et donc c'est une autre version du Tobias que vous connaissez si vous avez lu le livre, mais c'est pas non plus complètement différent de lui. Et ouais, c'était un peu onirique. C'était vraiment un rêve un peu fifou. En plus, l'univers autour du personnage de Maga est assez sympa. En plus, donc c'était assez drôle de mélanger son univers et le mien, qui sont pas si différents, mais qui est beaucoup plus barré du côté de Maggie que du côté de Tobias. C'était assez intéressant, on s'est bien amusé à faire ça. Et plus tard, il m'a dit qu'un jour, ce serait bien qu'on écrive un roman à quatre mains, mais je ne sais pas si on le fera un jour parce qu'on a pris des chemins assez différents au niveau de notre travail et de nos vies personnelles. Après, si un jour on reprend contact et qu'on décide de le faire, ben vous serez sûrement pas les premiers à le savoir, mais vous le saurez assez vite. Et après, moi, je ne suis pas du tout opposée au fait d'écrire à quatre mains. C'est un truc sur lequel j'ai beaucoup fantasmé avec des amis, des proches, notamment des potes qui dessinent, parce qu'il y a justement un des personnages secondaires féminins d'Il nous reste le ciel, dont je ferais bien une bande dessinée pour raconter sa propre façon dont elle a vécu l'apocalypse. Et j'ai des potes qui dessinent, donc on en a parlé. C'est pas la même chose qu'écrire à quatre mains, mais c'est un peu quand même... Et à raconter une histoire à quatre mains, parce qu'il y a deux mains qui dessinent, deux mains qui écrivent, donc on est quand même quatre mains. Et voilà, et après je suis tout à fait ouvert à ça, et j'aimerais bien un jour vivre cette expérience, à vie aux amateurs.
Il y a certaines personnes qui écrivent avec les pieds, mais c'est très différent comme sujet.
D'autres questions ?
Les projets d'écriture. Alors j'en ai énormément. Il y en a certains qui sont très vieux et je commence un peu à me faire engueuler par les personnages et par les vrais gens à qui j'en ai parlé pour que je m'occupe de les écrire. Je choisis pas vraiment ce qui se passe. En fait, c'est mon cerveau décide de se concentrer sur une histoire en particulier et je les ai mis dans l'ordre. J'aurais donné des tickets et je ne respecte pas l'ordre dans lequel je les ai mis. Donc ils sont pas contents. Mais bref, pour l'instant, je pensais pas refaire du post-apo. Je pensais qu'Il nous reste le ciel, ce serait la première et la dernière fois que je ferais du post-apo. Et apparemment non. Donc je vais travailler sur... je vais essayer d'écrire un diptyque. J'ai toujours essayé parce qu'en fait je commence, donc je sais pas si je vais y arriver. Ça se trouve je vais pas y arriver, du coup vous le lirez jamais. Mais si j'y arrive, j'essaie d'écrire un diptyque post-apo qui se passe pas du tout dans le même monde qu'Il nous reste le ciel, qui se passe 2000 ans après une apocalypse dont vous n'aurez aucun détail parce que 2000 ans après tout le monde s'en fout, plus personne ne sait ce qui s'est passé. Et c'est plus même pas du post-apo. C'est plus ça se passe dans le futur d'une autre société en fait. Et sinon, j'aimerais bien écrire du jeunesse parce que j'ai des neveux et des nièces, notamment une nièce qui lit énormément et c'est ma faute parce que je lui ai fichu Harry Potter dans les mains quand elle avait 7 ans. Souvent elle me dit quand est-ce que tu pourrais écrire un livre que je pourrais lire, parce que c'est vrai qu'Apocalypse Blues quand t'as 11 ans c'est un peu chaud quand même. Donc du coup j'arrête pas de lui dire que je vais lui écrire des histoires pour elle. Et en fait, si je continue à laisser passer plus de temps, bientôt ça va peut-être la peine, elle va pouvoir lire les romans que j'ai écrits sans qu'il y ait besoin de perdre du jeunesse. Mais je vais essayer d'écrire un peu du jeunesse. J'ai une histoire qui me travaille depuis longtemps avec des créatures sous-marines et des gamins un peu rebelles qui se retrouvent embarqués dans des histoires de monstres marins. Ça pourrait être sympa. Mais encore une fois, c'est des projets qui sont vraiment à l'état de projet et pas d'autre chose. Donc du coup, je peux vraiment pas vous faire de promesses au niveau de ce que ça va devenir.
J'ajoute que je sors une BD aussi, enfin un cycle de BD là, juste maintenant. Donc je suis assez excité avec ça. Ce n'est pas moi qui les dessine, malgré les dessins moches que je fais sur les dédicaces, je vous rassure. C'est un illustrateur qui dessine très bien, qui s'appelle Stéphane Créti. Et on est en train d'attendre la colorisation. Ça, c'est assez magique pour un auteur. C'est-à-dire que vous faites des pages de BD en tant que scénariste, en décrivant, et petit à petit, vous les voyez naître parce qu'il y a un type qui les dessine et il y en a un autre qui les colorise. C'est superbe.
Et c'est quoi voilà. Le titre ?
Le titre, c'est La pierre du chaos.
Ce sera dans un univers imaginaire ?
C'est de la fantasy encore, dans un nouvel univers, parce que c'est tout à fait autre chose. Et ça sort chez Draco, qui est une maison qui vient de se créer chez Bambou et qui est dirigée par Christophe Arleston, qui a fait L'Enfeuse. Donc bon, voilà, c'est un monsieur qui est assez connu.
Vous, tranquille.
Donc ça devrait être bien. Voilà, voilà.
J'en profite pour dire que moi aussi, j'aime bien quand mes personnages ils apparaissent. Donc certains d'entre vous ont envie de me dessiner des fanarts. S'il vous plaît, faites-le, j'en ai besoin.
Encore une question ou deux ? Non ?
Mais je vais vous dire si c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire, s'il vous plaît, posez des questions.
Ouais, tu peux y aller avec les questions qui tuent. Hein.
Non, non, moi j'avais une petite question. Qu'est-ce que vous pensez du titre de la collection Big Bang ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça vous inspire ?
Alors, soyons francs, il n'y a aucune raison que je vous demande. Le titre ne me plaît pas. J'aime le principe de la collection, j'aime la façon dont elle est conçue, j'aime les couves, j'aime la politique très ouverte de Brajlon là-dessus. Big Bang, je trouve pas ça magnifique comme titre. Mais ça se trouve, ça plaira aux jeunes parce que c'est fait pour des young adultes, donc c'est normal, ça ne me plaise pas, je suis vieux.
Moi par contre, je suis un young adulte et en fait j'ai un gros problème. Chaque fois que j'entends Big Bang, ou même que je le pense dans ma tête ou que je le lis sur un bout de papier, je pense à Big Bang, l'ami imaginaire de Riley dans Vice Versa. Et j'entends la chanson dans ma tête. Non, je ne vais pas la chanter. N'insistez pas.
Donc la question qui tue, voilà, la question qui tue de la fin de conférence. D'où tirez-vous votre inspiration ?
Bon, j'ai déjà dit, moi je la tire de la douche.
Moi je la tire des séries télé, j'ai dit aussi. Hein.
Ouais, basiquement, l'inspiration, c'est quelque chose d'assez volatile. En général, on traîne ça depuis qu'on est gamin. Après, il faut trier parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes. Et l'inspiration du moment, elle vient généralement au mauvais moment. Partez du principe, si vous voulez écrire un livre, l'inspiration ne vient jamais au bon moment. C'est-à-dire, vous prenez le métro, je suis parisien, vous prenez le métro quand il y a 200 000 personnes, que ça pue, que ça bouge, qu'on est tous ballottés, je me dis, ah putain, j'ai une idée. Donc du coup, il faut sortir le téléphone, essayer d'écrire vaguement sur le truc en prenant des notes, ou dicter, ce qui est encore plus classe devant tout le monde, genre, le type, il l'a tué, etc., donc c'est affreux. Version 2, vous avez la douche. La douche, c'est pas mal parce que ça fait quand même longtemps qu'on se douche plus avec des pains de savon. Je ne suis pas ma grand-mère, donc avec le gel douche, vous pouvez pas graver. Donc il faut garder ça en tête. Donc c'est assez ennuyeux parce qu'à la sortie de la douche, vous savez plus très très bien ce que vous avez fait. Bref, l'inspiration vient au mauvais moment ou au milieu de la nuit. C'est bien aussi si vous avez quelqu'un qui dort à côté de vous, que vous allumez à 3 heures du matin en disant j'ai une idée brillante, qui d'ailleurs n'est pas du tout brillante le lendemain matin. Voilà. Donc elle vient de partout et nulle part, l'inspiration, il faut s'en méfier comme de la peste.
J'ai le même genre de problème, j'ai aussi beaucoup d'idées qui me viennent sous la douche alors que je suis trempée, je peux pas écrire, j'ai pas de carnet sous la main, je peux pas en mettre un dans la salle de bain parce que je prends mes douches hyper chaudes et le carnet il finirait par être trempé à cause de la vapeur. Et ça m'arrive aussi beaucoup quand je cuisine et que j'ai les mains bien dans la pâte à cookies. Là, vous voyez quand j'ai du beurre qui me colle aux doigts, dans ce moment-là, j'ai des idées brillantes qui me viennent, je me dis c'est génial. Des fois je marche dans la rue, même je suis pressée donc je peux même pas me dire je vais m'arrêter pour écrire. Et j'ai des dialogues entiers qui se déroulent dans ma tête. Je suis en train de leur dire s'il vous plaît. S'il vous plaît, taisez-vous et reprenez quand je serai assis quelque part avec un carnet. Non, ils ne le font pas. Donc j'arrive et je me dis, je sais quel type de dialogue vous devez avoir, mais j'ai plus les mots exacts parce que bien sûr, vous l'avez eu pendant que je ne pouvais pas écrire. Oui, je parle à mes personnages parfois, j'ai un petit côté Gollum comme ça. Là. Et donc du coup, je suis vachement embêtée. Après, au niveau de l'inspiration en elle-même, et même plus précisément de l'imagination, récemment, c'est-à-dire au cours des 12 derniers mois, je ne sais plus quand exactement, j'ai lu le prologue d'un texte, je crois que ça s'appelle Les étoiles de Compostelle ou un truc comme ça. J'étais à une expo sur Saint-Jacques de Compostelle, genre ça n'a rien à voir avec le Schmilblick, mais voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Et au magasin, ils vendaient des livres en rapport avec Saint-Jacques de Compostelle, et notamment, il y avait un roman historique qui s'appelait Les étoiles de Compostelle. Et l'auteur avait écrit dans le prologue qu'on lui demande souvent, du coup, on lui parle souvent de l'imagination comme si c'était un truc un peu magique, ou genre comme s'il avait un espèce d'organe supplémentaire à l'intérieur du cerveau qui soigne de l'imagination, des choses comme ça. Et il disait qu'en fait, pour lui, l'imagination, c'est pas un truc qui est à l'intérieur de lui, c'est un truc qui est à l'extérieur de lui, qui flotte quelque part dans l'univers, et qui des fois lui vient, et il sait pas pourquoi. Et genre ce roman qu'il avait écrit, Les étoiles de Compostelle, il disait qu'il l'avait écrit avec le sentiment intense qu'il avait été à une époque son personnage principal, qui vit au Moyen-Âge, quoi, et que ce personnage avait été lui. Genre il avait l'impression, pas d'imaginer l'histoire, mais de s'en souvenir. Et il a écrit des choses qui étaient d'un détail, et il disait c'était impossible que j'invente ça, en fait. Il y avait trop de détails, c'était trop réaliste, c'était trop réel. Et j'ai acheté le bouquin, alors j'en ai absolument rien à battre de Saint-Jacques de Compostelle, parce que j'étais absolument d'accord avec ce qu'il disait. En fait, j'ai pas l'impression, je contrôle absolument pas mon inspiration, ni quand est-ce qu'elle vient, ni comment, ni qu'est-ce qu'elle m'apporte, parce qu'en fait, ça vient pas de moi. ça vient de l'extérieur. Je ne sais pas d'où, hein. Je sais que ça paraît taré, mais s'il vous plaît, ne me faites pas interner. Mais j'ai l'impression vraiment, des fois, que j'ai l'impression que les personnages d'Apocalypse Blues, ils existent quelque part. Il y a un univers parallèle où en 2030, il y a eu la fin du monde sous forme de catastrophe climatique. C'est peut-être nous encore, hein. 2030, c'est dans pas longtemps. Mais je veux dire, il y a un univers parallèle dans lequel ça s'est vraiment produit. Et pour une raison que j'ignore, j'ai capté cette histoire. Et c'est aussi pour ça que j'ai absolument zéro choix dessus. C'est pour ça que c'est pas la peine de venir m'engueuler. Si vous n'êtes pas contente de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est pas ma faute.
Mais Gabriel, vous disiez tout à l'heure que vous aviez souvent des idées, vous écriviez des textes à contre-temps. L'inspiration, elle vous vient aussi un peu à contre-temps ?
Non, pas obligatoirement. Déjà, je suis content de ne pas avoir vécu ce que vivent les personnages dans le Serment de l'Orage, même dans une autre vie, ça ne m'aurait pas plu. Mais non, l'inspiration... Ah si, en fait, si, l'inspiration, si, t'as raison, en fait. L'inspiration vient un peu à contre-temps aussi. C'est-à-dire quand vous êtes immergé dans 2, 3 projets ou 4 projets, je travaille en plus en parallèle pour des petites séries pour TF1 qui me nourrissent. Bon, TF1, vous doutez bien que ce n'est pas la totale créativité, c'est juste c'est des trucs bien cadrés comme il faut, que les gens aiment bien regarder. Et quand je suis en train de travailler sur une série ou que je suis en train de travailler même sur un bouquin, et tout d'un coup, j'en ai un autre qui me hante. Et je me dis, voilà, j'ai envie d'écrire celui-là. C'est très désagréable. Ce que je fais en général, je switch en disant, oh, mais il n'y a pas de problème, je vais écrire les deux.
Et
je patauge un petit peu parce que c'est un peu complexe de passer de l'un à l'autre. Mais finalement, on y arrive. C'est une question de grand écart. Je ne suis pas souple dans la vie, mais bon, mentalement.
Mais peut-être que votre inconscient essaye de vous dire quelque chose.
Je ne sais pas ce qu'il essaye de me dire, mais il ne se débrouille pas toujours très bien.
Plus de questions, vraiment ? Oui.
Heureusement non. Par contre, là, j'ai écrit, par exemple, mon dernier bouquin qui est sorti juste avant celui-là. C'est un bouquin de littérature générale qui est sorti chez Fayard, qui est une histoire de piano. Et pendant que j'écrivais ce bouquin, j'avais des bribes de ça que j'avais très envie d'écrire. Et entre des gens qui sont justement sous un orage épouvantable à se tuer à grands coups d'épée et quelqu'un qui joue du Rachmaninov sur un piano pour passer un concours, il y a des fois où c'est vraiment le grand écart. Donc, parfois, il était un petit peu trop, dur sur son piano, on va dire. Donc, bon, dans ce cas-là, il vaut mieux switcher carrément sur l'autre.
Une autre question ? Dernière ?
Sinon, il vous reste encore peut-être 5 minutes pour aller dédicacer les livres sous la bulle du livre. Sinon, bien sûr, vous retrouvez les auteurs demain.
Oui, et dimanche. Et dimanche soir, on meurt normalement parce qu'on est déjà un peu crevé maintenant. Je vous dis pas.
Non, ça, faut pas exagérer. Il dit ça parce qu'il est vieux, en fait.
Ouais, déjà, je suis vieux. Et en plus, si je meurs maintenant, le bouquin va se vendre, mais du feu de Dieu. Donc chez Bras Jeunes, ils sont comme ça en disant, le mec, s'il crève dimanche, on va mais cartonner. Après, le tome 2...
Moi, ça va, ils sont déjà écrits. Du coup, je peux mourir.
Bon, on vous remercie
sur ces bonnes paroles.
Merci.